Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Charlie Hebdo est devenu un symbole, symbole de la République attaquée, symbole d'un certain esprit français, symbole également pour certains de l'islamophobie d'une partie de la gauche. Alors pour évoquer ces différents thèmes, l'année où Charlie Hebdo célèbre ses 25 ans, nous avons choisi d'inviter un historien qui a écrit sur l'attentat de Charlie Hebdo, Patrick Boucheron, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur au Collège de France, vous occupez la chaire d'histoire des pouvoirs en Europe occidentale. Vous avez écrit Prendre date en 2015, et je vais citer les deux premières lignes de Prendre date. Les assassinats du 7 janvier ne nous ont pas trouvés en très bonne forme, écriviez-vous. De quoi avions-nous l'air le 6 jusqu'au 6? Qui étions-nous au juste et dans quel état? De quoi? De qui étions-nous faits? Est-ce que vous regrettez d'avoir écrit cela, Patrick Boucheron? Est-ce que vous regrettez d'avoir écrit sur Charlie Hebdo, maintenant une polémique concernant ce journal, l'opposant à Mediapart a éclaté?
Pas du tout. Quelle folie. D'abord, je n'ai pas écrit sur Charlie Hebdo. J'ai écrit avec Mathieu Riboulet un livre qui était, au fond, un livre qui tentait de faire l'histoire d'une conscience blessée. Prendre date, au pluriel, il y en avait plusieurs, déjà, pas seulement le 7 janvier, mais le 8, mais le 9, ça commençait le 6, vous l'avez dit, pas seulement les attentats de Charlie Hebdo, mais ceux de l'hypercacher, et l'idée qu'au fond, un événement, comme le disait Georges Duby, est ce qui advient de ce qui est déjà advenu. Ça a eu lieu, ça a fait une entaille dans nos vies, et donc nous devons aller regarder, mais paisiblement, mais avec tact et avec exactitude. C'est cela, effectivement, qui nous rapprochait, l'historien Mathieu Riboulet et moi, qui était à ce moment-là historien, mais qui tentait simplement de faire mon métier d'homme, c'est-à-dire de désigner avec justesse et justice ce qui arrivait et ce qui risquait de nous blesser. Ça arrivait de loin. Et ça continue. Mais d'une certaine manière, le livre dont vous parlez, il a dû paraître en mars-avril 2015, à un moment qui était justement un moment où on faisait travail pour retenir le temps. Pour moi, c'est ça aussi le travail de l'historien, c'est retenir le temps.
Oui, vous avez d'ailleurs été l'un des premiers intellectuels à publier un ouvrage sur ce thème, Patrick Boucheron, mais vous êtes historien, vous analysez les symboles, et malgré tout, votre nom, alors à tort, à raison, est associé du coup à la pensée de cet événement, et aussi un peu à « je suis Charlie », puisque à l'époque c'était ce que l'on disait. Est-ce qu'encore une fois, aujourd'hui, alors qu'on voit quand même ces couvertures difficiles à assumer, ces couvertures qui disent certains touchent toujours la même cible, autrement dit les musulmans, est-ce que vous êtes toujours de ce point de vue-là, à même d'assumer ce symbole? Je le dis d'autant plus facilement que j'écris pour Charlie Hebdo, mais vous savez, Patrick, que vous pouvez dire tout le mal que vous pensez de Charlie Hebdo ici.
Mais encore une fois, pas du tout, parce que ce livre se terminait le 15 janvier, au moment où la fameuse couverture « Tout est pardonné » de Charlie Hebdo paraissait, et où il n'y avait plus du tout consensus par rapport à cette image qui déplaisait à tout le monde. Et je crois qu'il n'y a jamais eu de moment où Charlie Hebdo a été un journal consensuel. Il y a eu un moment où effectivement le contexte des tueries politiques a justement dit quelque chose de la France qui venait et des inquiétudes que cela pouvait susciter. Et donc, ça, pour moi, ça n'a absolument rien à voir. Absolument rien à voir. Maintenant, si vous voulez qu'on parle effectivement de cette malheureuse affaire, je veux bien.
Et Mediapart.
VS Mediapart, je veux bien. Parce que d'une certaine manière, c'est tristement symptomatique d'une dégradation et d'un rétrécissement de la controverse publique, du fait qu'on confond la guerre des égaux avec la guerre du monde, et que dans le champ, de la gauche, il y a là, pour moi, une attitude, et je la symétriserai volontiers, qui est absurde, qui est suicidaire et qui est indigne.
Vous êtes plutôt Mediapart ou Charlie
Hebdo? Ah non, mais ni l'un ni l'autre. Alors là, franchement, si vous m'avez tiré du lit pour essayer de me sommer, de choisir ces deux camps, alors que
d'habitude.
Précisément, pas tant que ça, alors que précisément, il me semble que justement, la manière dont, non seulement le débat est posé, mais la manière dont on en rend compte, cet effet de loupe est absolument sidérant. Vous pensez vraiment que ça intéresse tant de gens que ça?
Ce que je pense,
vous pensez que
c'est
la France est divisée?
Non, je ne le pense pas, mais je pense en revanche qu'il y a deux mots qui sont entrés, alors à tort ou à raison, dans la conversation nationale, et justement, là, cela m'intéresse de savoir ce que vous en pensez, sont les termes d'islamophobie et d'islamo-gauchisme. Je ne fais pas du tout de symétrie dans ces deux mots, mais par contre, je vous les jette en pâture pour que vous me disiez si pour vous, ils renvoient à une réalité sociale, Patrick Boucheron.
Ce qui renvoie à une réalité, c'est l'exacerbation du débat où très vite, dès qu'il y a une couverture, puisque nous parlons d'abord d'une couverture, d'un hebdomadaire satirique qui, voilà, caricature Edoui Plenel, qui répond, c'est l'affiche rouge. Donc tout de suite, avec le premier tweet, on est déjà au maximum de l'horreur. On parle d'une mise à mort. Et c'est la question de la mise à mort.
L'affiche rouge renvoyant à la résistance, un groupe de résistants assassinés par
les nazis. Oui, ce qui est quand même déjà une étrange manière très flatteuse de se dire déjà soi-même comme résistant, mais résistant à quoi? Voilà. Et ensuite, après, l'éditorial qui dit c'est nous assigné comme cible des djihadistes, et ensuite un ancien premier ministre de la France qui dit je veux leur faire rendre gorge, mais enfin quand même, enfin ça nous salit tous. Cet imaginaire guerrier, cette attitude héroïque et virile est ridicule, elle est grotesque de part et d'autre. Pardon, mais j'ai rien à en dire. J'ai rien à en dire, sinon que moi je suis un intellectuel, je suis un historien, et je n'ai rien à voir avec cela. À ceci près que je peux dire que si on confond cette minuscule guerre d'ego avec ce qui nous attend et ce qui nous requiert aujourd'hui, c'est-à-dire justement la première phrase que vous citiez de prendre date, c'est-à-dire qui sommes-nous aujourd'hui pour ne pas considérer les autres pour rien ? Eh bien, dans ce cas-là, avouez que malheureusement, si le débat est là, alors il scinde une partie minuscule de l'opinion, parce que et Mediapart et Charlie Hebdo sont, je l'imagine, favorables aux règles de la laïcité, à une un fonctionnement ouvert, je dirais, de l'idée d'identité, ne sont antiracistes. Et vous pensez qu'ils sont majoritaires, mais ils ne le sont pas.
Patrick Boucheron, vous avez participé à un ouvrage collectif que vous avez préfacé, dirigé, Le mot qui tue. Répondez-moi sur ces deux mots. Islamo-gauchiste, par exemple, est-ce que pour vous ça a un sens? Est-ce qu'il y a une partie de la gauche qui a été complaisante avec l'islam radicalisé, ou est-ce un épouvantail?
Je vous réponds. Le mot qui tue était une histoire des violences intellectuelles que j'ai conduit avec Vincent Azoulay, je crois que je me souviens que c'était en 2009, et on tentait de faire une histoire longue à la fois de la controverse et de la catégorisation intellectuelle. Les intellectuels ont pour profession de faire violence au monde avec des mots, c'est-à-dire que ces mots désignent des choses, mais en même temps les font advenir. Et donc, dire de l'autre qu'il est islamo-gauchiste ou islamophobe ne décrit rien, ça provoque. Voilà. Donc, de ces mots, je pourrais faire l'histoire, si j'en étais spécialiste, mais ce n'est pas le cas, de catégorisation violente. C'est une catégorisation violente, c'est-à-dire que ça découpe le monde, mais ça ne le décrit pas. Or, pardon, mais j'y reviens, si je suis historien, si j'ai voulu l'être, si j'ai voulu écrire avec Mathieu Riboulet, c'est que je crois qu'on ne peut pas se dérober à la tâche de nommer avec exactitude les choses qui viennent, avec justice, et que ce n'est pas en se lançant des mots au visage que on peut raisonnablement rendre justice à la diversité du monde.
Alors avançons dans le champ lexical, islamophobie. Islamophobie, pour certains, notamment pour Edwy Plenel, il y a aurait une forme de correspondance entre l'antisémitisme, alors je ne veux pas le dater, mais peut-être celui des années 30 en France, qui n'était pas l'antisémitisme exterminationniste hitlérien, il y aurait une équivalence entre la situation des musulmans et la situation qu'ont pu connaître les juifs. Là aussi, deux questions. Tout d'abord, est-ce que vous considérez que ce terme peut être utilisé? Est-ce que c'est véritablement un concept? Et puis ensuite, Patrick Boucheron, comment cela se fait-il que finalement, de l'affiche rouge à la question de l'antisémitisme, on en revienne toujours à franchir très rapidement le point Godwin et à aller chercher finalement dans une histoire qui débute avec le pré-nazisme et qui finit en 1945?
Eh bien parce qu'il y a un imaginaire guerrier à la controverse intellectuelle. Que cela ressort sans doute d'une histoire qui est sinon glorieuse, du moins ancienne, qu'on peut faire une histoire longue du polémisme, que si on est un intellectuel, c'est qu'on pense que les mots peuvent faire quelque chose aux choses. Et que ces mots ont une charge explosive et qu'on doit d'une certaine manière en user, que c'est, disait Sartre, un arsenal. De tout cela, on a fait l'histoire. Ceux qui inventent le mot d'islamophobie savent pourquoi ils le font. Ils le font pour faire mal. Ils ne le font pas pour rendre raison au réel. Donc voilà pourquoi, vous savez, vous êtes très patient, mais je le suis aussi. Donc je peux me dérober pendant une heure et demie, deux heures, autant de temps qu'il me faut, parce que quand une question n'est pas posée, pas bien posée, je n'y vais pas.
Mais les controverses intellectuelles, puisque vous y prenez part, parfois, on en parlera d'ailleurs dans quelques instants au sujet de l'histoire mondiale de la France que vous avez dirigée, et ces controverses, elles ne sont jamais régies par les règles universitaires, ou alors, je pourrais le dire autrement, votre chapelle, je parle de la chapelle universitaire, est souvent aux prises avec des querelles où là aussi les mots peuvent être impurs, les coups un peu bas.
Mais bien entendu, évidemment, nous n'avons pas les mains blanches et nous avons, le monde intellectuel est un petit monde fait de rivalités, de petitesse, de mesquinerie, de tout ce que vous voulez. Il est réglé par un certain nombre d'usages et ceux qui exercent leur métier dans ce champ peuvent aussi choisir leurs arènes. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs manières de faire. On peut faire des livres savants, on peut faire des livres grand public, et alors ils n'auront pas la même réception. On pourra les défendre dans des arènes académiques ou dans l'espace public. Mais pardon, l'espace public, j'ai aussi écrit un livre collectif avec dirigé par Nicolas Offenstadt sur l'espace public. L'espace public, c'est quoi? C'est le fait que on mette en partage un usage public de la raison. Mais dedans, il y a raison. Si c'est le lieu où chacun travaille à être déraisonnable et à monter très vite en généralité et à se traiter au bout de cinq minutes d'oppresseurs, de nazis ou de djihadistes, ce n'est pas un espace public.
Voilà. Alors, il y a un mot qui est un mot que les historiens emploient, votre tribu, Patrick Boucheron, mais qui est un mot aussi que les politiques utilisent, et là, les choses se gâtent un peu du point de vue scientifique, c'est le mot identité. On voit bien que le débat public, finalement, s'hystérise autour de la question de l'islam, s'hystérise également autour de la question identitaire. Vous qui avez travaillé sur cette question de l'identité, comment traiteriez-vous la chose? Est-il possible d'avoir une approche dépassionnée, rationnelle de cette question?
Alors nous l'avons souhaité, effectivement, le livre auquel vous faisiez allusion, encore un livre collectif, l'histoire mondiale de la France, encore une histoire par date, tentait de proposer une voie, qui est une voie de conciliation, justement, pour décrire, au fond, ce qui nous arrive, effectivement, un malaise sur l'identité en longue durée et sans laisser le terme en proie aux schématisations abusives. C'est vrai que c'est un mot qui d'une certaine manière, ne plaît pas tellement à la gauche intellectuelle et qu'elle a abandonné. Sans doute a-t-elle eu tort de l'abandonner, sans doute a-t-elle eu tort de ne pas articuler un discours sur l'identité. Regardez, par exemple, aujourd'hui, on relit l'œuvre d'Axel Honneth et on comprend mieux que toutes les luttes politiques sont des luttes de reconnaissance. Pendant très longtemps, la gauche, on va dire sociale, a voulu faire d'Axel Honneth une une sorte de théoricien de la social-démocratie qui nous faisait dériver des combats véritables en nous faisant regarder le féminisme, les minorités, alors que bon, les luttes sociales étaient toujours là. Mais en réalité, c'est un retour aux origines du socialisme. C'est intéressant de se souvenir qu'il y a aux origines effectivement du socialisme au 19e siècle, eh bien la lutte pour la reconnaissance, la lutte pour effectivement la reconnaissance des identités sexuelles, sociales, minoritaires, c'est au cœur du combat de l'émancipation. Et de ce point de vue-là, je crois que certains intellectuels ont eu tort sans doute, et je m'en excepte pas, de décourager par les mésusages d'une notion empoisonnée, parce que tous ces mots sont empoisonnés. Tous ces mots sont empoisonnés, de les laisser en pâture à plus ignorants qu'eux.
Lorsque vous parlez de lutte pour la reconnaissance, on vous suit, et Patrick Boucheron, mais par contre, là où on est obligé d'affronter d'autres querelles, c'est lorsqu'il s'agit de lutte pour la reconnaissance des victimes ou de ce que l'on a appelé la concurrence victimaire. Et là, en plus, c'est embêtant pour vous parce que l'historien est juge de paix, c'est-à-dire qu'il doit savoir qui sont les plus victimes, comment les hiérarchiser. Et donc là, on voit bien que on a eu affaire à des débats assez scabreux. Comment vous les jugez ?
Là encore, il est intéressant de considérer que ces mots-là ne décrivent rien, mais découpent le réel et produisent des effets. Repentance, par exemple. Nous sommes sommés d'être contre la repentance, d'en finir avec la repentance. Mais du moment où ce mot est lâché dans le débat public dans les années 90, c'est dans un livre qui s'appelait déjà « Pour en finir avec la repentance ». Mais évidemment, mais personne ne songe sérieusement à se faire le juge de paix de la concurrence victimaire. Où avez-vous vu ça ? Ce n'est pas notre métier. Donc on n'a pas à se défendre de ne pas faire quelque chose qu'on n'a jamais songé à faire. C'est pas notre affaire.
Patrick Boucheron, l'histoire mondiale de la France, c'est le livre collectif que vous avez dirigé au Seuil. Un été avec Machiavel, c'est un livre paru aux éditions Équateur Parallèle. On va vous retrouver aux environs du 8h20, on mettra de côté Charlie, on parlera des controverses intellectuelles et de la manière dont celles-ci se déroulent aujourd'hui en France. 8h sur France Culture.